merci d'écouter Questions politiques avec Françoise Fressos du journal Le Monde et Karine Bécard de France Inter. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Ali.
Bonjour Ali. À tous.
Bonjour à tout le monde.
Comment penser, comment préparer l'après quand on est toujours en pleine crise et qu'on est sous la pression de l'urgence? Comment répondre à nos inquiétudes, à notre impatience, à nos espoirs aussi quand il faut prendre chaque jour des décisions exceptionnelles? Question politique au présent et au futur ce dimanche avec deux invités. Rendez-vous dans un instant avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et puis dans une demi-heure, c'est l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qui répondra à nos questions. Pour réagir, pour intervenir, le hashtag Question Paul ou l'application mobile de France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Ali Badou.
C'est la question que se posent des millions d'élèves, monsieur le ministre, des millions d'élèves, les enseignants, les parents. Jusqu'à quand les écoles resteront fermées? Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui se posent cette question? Oubliez-la. Arrêtez de vous interroger, de vous poser cette question-là. Préparez-vous au pire?
Non, je ne dis pas ça. C'est bien normal d'abord de poser cette question. Chacun sait qu'elle n'a pas une réponse simple, puisque par définition, on dépend de l'évolution de l'épidémie et de l'analyse que feront les autorités sanitaires et puis des stratégies que l'on aura de déconfinement. Mais on sait que c'est au début du mois de mai. Et que évidemment c'est très souhaitable que ce soit le plus tôt possible, mais que ça dépend de l'analyse qui sera faite de la situation.
Le scénario du début du mois de mai, Jean-Michel Blanquer, est toujours crédible?
Oui, même si peut-être que aujourd'hui on peut imaginer davantage le courant du mois de mai que le début du mois de mai, mais je ne peux rien dire sur ce point parce que ce ne sont que des hypothèses. Encore une fois, ça dépend de critères de santé. Simplement, on doit se préparer. On doit se préparer à revenir en mai, comme se préparer à ce que ce ne soit pas le cas. Il faut se préparer aux deux catégories d'hypothèses.
L'éducation nationale est en plein bouleversement, plein chambardement, et vous prenez chaque jour des décisions exceptionnelles. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Jean-Michel Blanquer, en prenant cette décision historique concernant le bac?
J'ai d'abord ressenti le besoin de ne pas léser les élèves. C'était la chose, mon point de repère majeur, arriver à ce qu'ils puissent en 2020 ne pas perdre une année. C'est pourquoi c'est si important aussi d'avoir aujourd'hui de l'enseignement à distance et du travail qui est fait, de façon à ce que le niveau ne baisse pas et à ce que les élèves restent bien motivés et bien au travail. Et donc c'est la préparation de leur avenir. Si vous voulez, le fait qu'on ait beaucoup discuté par visioconférence avec les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves, les lycéens eux-mêmes, parce que vous savez, il y a des délégués lycéens avec qui j'ai pu parler par visioconférence,
oui,
m'a permis d'arriver à cette formule qui est quand même une formule, je crois, de consensus. Et donc ce que j'ai senti en le faisant, c'était aussi peut-être d'arriver au point d'équilibre de toutes les idées, de toutes les positions qu'il pouvait y avoir sur un tel sujet.
On va évidemment y revenir. Question de Françoise Fressos.
Oui, alors justement, ce qui est très frappant dans cette crise, c'est que des choses qui semblaient absolument impossibles avant se réalisent, notamment la prise en compte du contrôle continu dans le baccalauréat que beaucoup de syndicats récusaient. Aujourd'hui, c'est la solution qui a été retenue. Est-ce que vous pensez que pour l'avenir, ça va reconfigurer le baccalauréat en profondeur? Quel va être l'impact de cette crise sur la suite?
Jean-Michel Blanquer.
Écoutez, sur tous les sujets, et au-delà de l'éducation nationale, la crise que nous vivons n'est pas neutre pour la suite, parce qu'évidemment, il y aura un avant et un après, et il faut que nous tous contribuions à ce que soient les aspects positifs qui soient retirés. Maintenant, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Simplement, je crois qu'on voit bien dans une circonstance comme celle-là que la notion de contrôle continu apparaît comme pertinente pour beaucoup d'acteurs, que c'est aussi quelque chose qui fera évoluer notre façon de faire du contrôle continu pour l'objectiver davantage, pour le dédramatiser aussi. Mais je n'ai jamais pensé que le contrôle continu était l'alpha et l'oméga de l'évaluation. J'ai toujours défendu l'idée d'épreuve terminale, et c'est quelque chose de mixte qui est, je pense, la bonne formule, et c'est le sens de la réforme du baccalauréat, puisqu'il y a 40% de contrôle continu et pas davantage dans ce qui est prévu. Donc, mais ceci ne changera probablement pas. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on ait des discussions de nature pédagogique, éducative, sociale, sur la meilleure manière de réaliser les choses. Et je suis très ouvert pour faire encore évoluer le système à partir des propositions de tous les acteurs.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, monsieur le ministre, considérer que l'enseignement, l'éducation nationale ne seront plus jamais les mêmes après cette crise ?
Je pense qu'on, j'aimerais qu'on puisse dire ça en positif, oui, puisque d'abord, on a vu l'engagement formidable des professeurs, et donc ce que je dis depuis 3 ans, c'est-à-dire le fait que nous devons placer le professeur au centre de la société, que le professeur est clé dans la société du 21e siècle. Je pense que c'est désormais beaucoup plus perçu grâce à cet engagement des professeurs, mais aussi grâce au fait que toutes les familles se sont elles aussi engagées et réalisent que, quand elles le réalisaient pas avant éventuellement, que professeur c'est un métier, que c'est difficile, et que on doit donc avoir une vision très très approfondie de ce qu'est ce métier et de ce qu'est cette fonction dans la société. Donc ne serait-ce que sur ce point-là, il y a une évolution, mais il y a d'autres sujets qui vont évoluer aussi. Par exemple, les usages numériques de l'éducation, évidemment, où on voit que ça fait sens, et qu'on sait très bien que sur ces questions, il peut y avoir le meilleur comme le pire. Mais on est très bien en ce moment, on est en train de voir très bien les aspects positifs possibles. Et là aussi, je montrais des états généraux du numérique éducatif à la rentrée pour justement faire le point sur ce qui s'est passé et les enseignements positifs que l'on veut tirer. Ce que je veux dire tout de suite, c'est que c'est le facteur humain qui reste décisif dans des enjeux comme ceux du moment. Autrement dit, on voit très bien que l'enseignement à distance ne peut pas remplacer l'enseignement présentiel. On voit que en temps normal, le numérique est là pour appuyer le facteur humain, mais pas pour le remplacer.
Avant de donner la parole à Karine Bécard et Françoise Fressoz, Jean-Michel Blanquer, vous avez prononcé un mot qui suscite à la fois de l'inquiétude et de l'espoir, c'est le mot de rentrée. C'est quand la rentrée des classes, Jean-Michel Blanquer ?
La rentrée des classes, c'était la question de tout à l'heure, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire le déconfinement, je ne suis pas capable de répondre. En revanche, si c'est la rentrée scolaire de septembre que vous évoquez, elle ne changera pas. De même que le départ en vacances d'été, normalement, ne changera pas.
Karine Bécard.
Écoutez, il y a quand même une question qui se pose, je trouve, Jean-Michel Blanquer, c'est pourquoi avoir maintenu cette sortie des classes au 4 juillet ? Pourquoi ne pas l'avoir éventuellement repoussée, je ne sais pas, au 15 ou au 30 juillet ? On a le sentiment que ça vous met un petit peu de temps pour organiser, pourquoi pas, des examens à l'écrit. Est-ce que ça a été une option pour vous, ça ? Et si oui, pourquoi ?
Petit problème de liaison, on va rétablir la connexion avec Karine Bécard tout de suite. Mais d'ores et déjà, monsieur le ministre, que répondez-vous à Jean-Michel Blanquer ? Que répondez-vous à Karine Bécard, pardon.
Les questions politiques ne sont pas celles qu'on se pose à soi-même.
Moins
pertinent, je pense. Je réponds que bien sûr que cette hypothèse nous l'avons étudiée et elle présentait en fait plus d'inconvénients que d'avantages. D'abord parce que on ignore le moment de notre retour, donc c'est très difficile de modifier des choses en fonction d'un premier paramètre qui est inconnu. Deuxièmement, ça pouvait être désincitatif pour le travail actuel, ce qui me paraît, et ça pouvait désorganiser beaucoup de choses. Donc le mieux était de maintenir quelques crans bien connu de tous, hein. De la même façon, on n'a pas changé les zones des vacances de printemps, alors que on a étudié l'hypothèse de faire une seule zone de vacances de printemps. Mais ces éléments un peu stables sont nécessaires dans un environnement par ailleurs très instable. Et le fait de dire que les vacances sont bien le 4 juillet, c'est aussi une façon de souligner tout ce qui doit se passer en amont. Alors évidemment, on va dépendre du déconfinement, mais mon objectif, c'est notamment qu'on puisse, si on est déconfiné, travailler pleinement au mois de juin, ce qui n'est pas le cas malheureusement depuis bien des années, et chacun le sait, puisque l'ensemble du système scolaire et notamment les lycées sont mobilisés par l'organisation des examens. Cette année, le fait qu'il y ait le contrôle continu va libérer le mois de juin et ça permettra de rattraper en partie les semaines perdues actuellement. Et puis de surcroît, l'enseignement à distance qui a lieu en ce moment est tout à fait pertinent. Malheureusement, ça reste hétérogène et vous savez qu'on cherche à récupérer les quelques élèves que nous n'avons pas encore inclus dans cette dynamique. Mais il y a du travail qui s'accomplit aussi dans la période actuelle.
Combien sont-ils ces élèves aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée plus précise de ceux justement qui ne sont plus en contact avec leurs professeurs et qui ne sont plus suivis et qui ne peuvent plus suivre le cours normal de leur scolarité?
Alors, on fait une enquête académie par académie, et c'est ça qui m'a permis de donner le chiffre de 5 à 8%, qui évidemment, d'un côté, peut nous montrer que bon, plus de 90% des élèves sont inclus dans la dynamique actuelle. C'est considérable, et c'est on doit se réjouir de cela, et encore une fois, remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, et ça nous place dans les pays qui ont fait le mieux cela. Et je tiens à le souligner, l'OCDE a souligné que c'était le Japon et la France qui étaient le mieux rentrés dans l'enseignement à distance, parce que nous sommes un service public national, avec une capacité à nous organiser nationalement face à ces enjeux, avoir une institution nationale comme le CNED, qui a été préparée pour ce genre de situation. Donc on a malgré tout quelque chose qui fonctionne assez bien. Mais bien entendu, on doit être très mobilisé sur ce 5 à 8% d'élèves qui sont, je dirais, hors système actuellement. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes pourcentages selon les élèves que l'on considère. Les écoles primaires sont davantage participantes. Dans l'enseignement secondaire, on a un problème du côté des lycées professionnels et notamment des CAP. Oui. Et comme on peut s'y attendre, c'est évidemment quelque chose qui révèle des inégalités sociales. Et donc, on doit faire feu de tout bois pour aller rechercher ces élèves aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un appel que je lance, hein, parce que chacun est acteur de ce sujet en appelant des gens, en appelant des familles. Beaucoup, je pense à des directeurs ou des directrices d'école qui sont vraiment aller littéralement chercher des familles pour les réinclure dans le processus. Et puis, je pense à tout ce travail qui est fait par les chefs d'établissement actuellement avec les professeurs principaux, les conseillers principaux d'éducation pour téléphoner aux familles. Et puis, on a mis sur pied ce système par la poste, vous savez, où un professeur peut désormais écrire sur le serveur ce qu'il souhaite, des devoirs, par exemple, pour un élève. Et c'est automatiquement envoyé ensuite par courrier pour les familles où il n'y aurait pas d'ordinateur.
Françoise Fressoz.
Deux questions pratiques. Est-ce que ça veut dire que, au regard de cette crise, il faut maintenant que toutes les familles soient dotées d'un outil informatique, parce que j'imagine que c'est une des causes des inégalités? Et deuxième question, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui aura d'impact sur la rentrée prochaine? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez imaginer des cours de rattrapage ou des classes peut-être qui peuvent évoluer en fonction du retard que vous aurez constaté? Est-ce qu'il y aura une évaluation des élèves à la rentrée, par exemple?
Jean-Michel Blanquer.
Oui, alors la réponse est oui aux deux questions. Sur la première question, c'était un sujet avant la crise et ça l'est davantage encore. C'est-à-dire, on doit éviter la fracture numérique dans notre société, et c'est encore plus vrai pour les enfants. Pour cela, il est important d'avoir un équipement informatique, d'autant plus que souvent, pratiquement tous les élèves ont un téléphone portable à partir d'un certain âge, ce qui n'est pas l'équivalent d'avoir un équipement informatique. Et très souvent, ça les amène à avoir les usages les moins pertinents du numérique au lieu d'avoir les usages les plus pertinents. Ce que l'on voit au travers de cela, c'est aussi le grand enjeu de l'éducation au numérique dans la dimension technique et dans la dimension éthique. C'est vrai pour notre formation des professeurs, c'est vrai pour notre formation des élèves, c'est vrai pour notre sensibilisation des parents. Donc oui, on va forcément faire des sauts très importants sur la base de ce qui a déjà été accompli toutes ces dernières années, qui est important. Depuis 10 ans, il y a eu quand même de grands progrès, mais on doit le faire d'une manière très pensée, très stratégique, parce qu'on sait très bien que le numérique porte le meilleur comme le pire, et que donc on doit évidemment, grâce à l'éducation, faire émerger le meilleur. Et de ce point de vue-là, par exemple, le fait qu'on ait désormais l'informatique comme discipline à part entière dans le nouveau lycée, ça fait partie de ces éléments de stratégie. Le fait qu'on ait un CAPES d'informatique, ça fait partie de ces stratégies. Ensuite, sur votre deuxième question, oui, et ça rejoint la question précédente sur ce qui change après la crise, parce que cette crise oblige à une personnalisation des parcours encore plus forte que précédemment, et même pendant la crise, encore plus pendant la crise. C'est-à-dire que pendant la crise, c'est l'hyper personnalisation avec des professeurs qui téléphonent aux familles, aux élèves, qui envoient des emails personnalisés. Alors ça se passe pendant l'année au travers des environnements numériques de travail, mais là c'est très accentué. Ça modifie et le plus souvent positivement, la relation parent-professeur, la relation professeur-élève, mais aussi la relation enfant-parent. Et ce triangle est fondamental pour la réussite éducative. Donc là aussi, on en tirera des enseignements dans le sens de plus grande unité entre nous tous, je pense. Donc ça fait partie des choses que l'on va voir à la rentrée, parce que lorsqu'il va y avoir la rentrée, celle du déconfinement et puis la rentrée scolaire, il y aura un enjeu évidemment de rattrapage pour certains. Et là, j'ai toute confiance dans le professionnalisme de nos professeurs, c'est-à-dire ils savent faire ça. Par exemple, vous avez des évaluations de début d'année dans certaines classes, celles de CP et de CE1 par exemple, ou de 6e ou de seconde, mais on pourrait en faire dans d'autres niveaux et qui permettent de se faire une idée du niveau et d'enclencher de l'aide personnalisée. On va accentuer ce type de dispositif. Et puis, il y en aura même pendant les vacances d'été, et ça, c'est aussi un des éléments de réponse à la question sur les vacances d'été, c'est que pendant les vacances d'été, on va monter des modules de soutien scolaire gratuits pour ceux qui en ont besoin. Donc oui, il y aura un élément de rattrapage et de personnalisation post-crise.
Karine Bécard.
Je voudrais revenir sur la notion de contrôle continu. Dans votre réforme du bac, vous l'avez largement introduit. Il est aujourd'hui donc la solution que vous avez choisie pour tous les examens de fin d'année. Ce qui signifie tout de même que ce sont les élèves qui sont dans des établissements qui notent moins sévèrement qui vont afficher quelque part les meilleurs résultats. Donc est-ce qu'il y a, philosophiquement j'ai envie de dire, de votre part, la volonté de sortir d'un certain élitisme à la française ?
Jean-Michel Blanquer.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fait réfléchir sur une forme d'objectivation du contrôle continu. Et d'ailleurs, si on a positionné des jurys d'harmonisation dans le processus de cette année, c'est bien pour faire cela, c'est-à-dire être capable quand même de juger la notation d'un établissement à l'autre, et parfois de réévaluer les notes de certains élèves quand ils sont dans des établissements où on a noté plus sévèrement que dans d'autres. Donc
être clément avec les élèves qui sont dans les meilleurs établissements du pays.
Je pense que souvent dans les meilleurs établissements, il y a des élèves qui réussissaient à obtenir de meilleures notes au baccalauréat que dans leur en contrôle continu. Le jury d'harmonisation saura tenir compte de cela, mais là aussi, c'est quelque chose que l'on sait faire, mais c'est quelque chose qu'on fera sans doute mieux cette fois-ci. Puis ça fait réfléchir sur le contrôle continu. Vous savez, depuis 2 ans, depuis qu'il y a Parcoursup, il y a déjà eu des réflexions de ce type, parce que désormais l'admission dans l'enseignement supérieur se fait finalement sur la base du contrôle continu, puisque les notes sont dans Parcoursup justement. Dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, c'est donc bien, ça a obligé certains établissements à réviser leur manière d'évaluer pour ne pas léser leurs propres élèves. Donc, mon but général, vous savez, c'est d'essayer d'élever le niveau de tous. Les mots de méritocratie ne me font pas peur, ce qui m'intéresse, c'est qu'on réussisse à notamment élever le niveau de ceux qui sont le plus en difficulté. Et que pour autant, ce soit au bénéfice de tous. C'est évidemment ce que l'on cherche aussi au travers d'une crise comme celle-là, qui doit nous faire moderniser notre système de notation en général, dans un sens peut-être plus constructif que ce que notre tradition a porté jusque-là.
Question très pratique, Jean-Michel Blanquer. Si l'on s'achemine vers la généralisation du port du masque avant même le déconfinement, est-ce que vous savez comment ça se passera pour les plus petits, notamment à l'école? Est-ce que dès l'école primaire, il faudra que les élèves portent un masque? Est-ce qu'il faudra que les professeurs aussi en portent un également?
Je ne sais pas répondre à cette question. Ça sera vraiment la recommandation des autorités de santé qui nous guidera. Je suis pas certain que ce soit nécessaire. À un moment donné, cette épidémie sera derrière nous. Donc, à ce moment-là, j'espère bien qu'on aura des conditions de vie normales. Mais je ne peux rien dire sur un tel sujet à ce stade.
Françoise Fressoz.
À plusieurs reprises, d'ailleurs, comme Édouard Philippe, vous dites « je ne sais pas ». Est-ce que c'est une leçon de modestie pour les politiques de reconnaître qu'au fond, cette crise sanitaire impose de dire aux Français « on n'a pas toutes les réponses » et plus généralement, quelle est l'interprétation que vous donnez à cette crise et au profond changement qu'elle peut induire sur la société française ?
Jean-Michel Blanquer.
D'abord, il y a un bon usage du « je ne sais pas ». C'est-à-dire que d'un côté, il est toujours sain, comme individu ou comme responsable politique, de savoir dire quand on ne sait pas. Je pense que c'est une bonne chose. Mais symétriquement, pour un responsable politique, on est obligé de décider. Il y a un moment donné où, quel que soit notre niveau d'information, on doit prendre une décision, et c'est évidemment ça le sens du mot responsable. Et on ne doit pas s'abriter derrière quoi que ce soit d'autre. On doit évidemment consulter, comprendre, et ensuite essayer de prendre la meilleure décision. C'est aussi ça la démocratie. Donc il y a un bon usage du je ne sais pas, si je puis dire. En revanche, quand je vous dis je ne sais pas aujourd'hui, ce n'est que sur des sujets de santé, sur des sujets sur lesquels le ministre de la Santé lui-même, peut-être lui, vous dirait je sais, ou en tout cas voici le chemin que nous traçons. Mais nous avons besoin aujourd'hui, lorsque nous nous exprimons, nous membres du gouvernement, de garantir aussi une cohérence et une unité de la parole sur des sujets extrêmement sensibles. C'est pourquoi dès que vous me parlez de sujets de santé, c'est au ministre de la Santé que je renvoie, pour cette raison-là. Mais sinon, pour tous les autres sujets qui relèvent de mon champ, je ne m'abrite derrière aucun je ne sais pas. Il faut évidemment agir et prendre des décisions comme celles que nous avons prises pour le baccalauréat. Et je pense que de façon générale, cette crise, comme d'autres crises, nous évidemment interroge le rapport entre science et politique. Et je crois qu'on doit être très attentif à ce que les deux domaines soient bien dans leur champ et que la décision politique en démocratie garde toute sa force.
Karine Bécard.
Malgré tout, je reste sur cette doctrine du « je ne sais pas », je parle de cette politique du masque. On assiste à une vraie volte-face depuis quelques heures du gouvernement qui estime que désormais, tous les Français vont devoir en porter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même, vous, et du point de vue du gouvernement, ce qui s'est passé? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'en changeant de doctrine aussi radicalement, finalement, c'est la propre crédibilité du gouvernement qui l'abîme lui-même, finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à cette situation?
Alors, je vais vous répondre pour pas vous donner le sentiment de me dérober, mais néanmoins, je vous disais que sur les questions de santé, c'est vraiment au ministre de la Santé de vous répondre sur ces questions. Néanmoins, ce qui est évident, c'est que dans cette...
Oui.
Bien sûr, c'est une question politique, et ce qui est intéressant, c'est de faire de la comparaison européenne et internationale sur ces sujets, parce que il y a beaucoup de gens qui donnent des leçons a posteriori, et une fois que la crise sera passée, il faudra évidemment faire le point sur ce qui a été bien et ce qui a été moins bien dans les décisions prises. Mais s'agissant des protections des personnes dans ces situations, ce qui est établi depuis le début et qui ne change pas, c'est que il y a des choses beaucoup plus importantes que les masques, et notamment les gestes barrières, le fait de se laver les mains, la distanciation entre les personnes. Ça a été établi par le Conseil scientifique, on a suivi cela depuis le début. Ensuite, il y a un débat sur les masques qui n'est pas nouveau d'ailleurs, et qui dépend évidemment de chaque situation sociale dans laquelle on se trouve. C'est évident que les masques sont en priorité pour les soignants et que l'usage de certains masques doit en priorité aller vers les soignants.
Question de Françoise Fressoze.
Ensuite, vous avez dit la crise interroge le rapport entre science et politique. Est-ce que vous pouvez être plus précis?
C'est un problème vieux comme le monde. Il y a un célèbre livre de Max Weber qui s'appelle Le savant et le politique, qui a un peu fait le point sur l'ensemble des questions que ça pose. Mais on a évidemment besoin d'expertise dans un État, dans une République comme la nôtre. On a besoin de connaissances scientifiques. On ne doit pas sacraliser cette connaissance scientifique, parce qu'on voit bien dans des crises comme celle-ci que personne ne détient une vérité absolue. Quand une maladie est nouvelle, il y a forcément du tâtonnement, il y a du débat, et donc c'est évidemment les scientifiques qui en savent le plus, mais on doit être attentif à leurs débats, à leurs propositions, et puis à un moment donné, l'autorité politique doit prendre une décision à la lumière de cela. Cette distinction entre le scientifique et le politique est une distinction cardinale. On ne doit jamais l'oublier. On doit avoir des distinctions assez nettes, parce qu'il est toujours dangereux quand le politique s'immisce trop dans la science, et il est dangereux aussi quand la science prenne le pouvoir politique.
Karine Bécard.
Les réformes du gouvernement Jean-Michel Blanquer ont été suspendues jusqu'à probablement très longtemps. Et après cette crise sanitaire, il y aura forcément d'autres urgences à gérer. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Mais vous avez été, vous, un des ministres les plus actifs, l'un des plus engagés aussi sur la réforme des retraites. Vous avez beaucoup travaillé à un rééquilibrage des salaires, notamment des enseignants. Une question qui continue à se poser, hein, au-delà de la réforme des retraites. Alors, est-ce que tout a été effectivement et totalement gelé? Est-ce que c'est un sujet malgré tout sur lequel vous pouvez éventuellement continuer en coulisses là maintenant à avancer?
Bon, ben, je pense que dans une période de crise, on ne doit pas oublier tous les enjeux structurels qui sont indépendants de la crise. Et d'une certaine façon, ça renvoie aussi à toutes vos questions sur l'après-crise. Donc évidemment que nous ne nous arrêtons pas de réfléchir et de travailler sur ces questions, même si, pour tout vous dire, beaucoup de choses se passent en télétravail, puisque une bonne partie de l'administration aujourd'hui est évidemment composée de personnes qui sont confinées.
Oui.
Mais rien ne change sur la motivation qui était la mienne avant la crise sur les questions que vous évoquez. Autrement dit, la revalorisation des professeurs, qui a une dimension matérielle, c'est-à-dire l'amélioration de la rémunération, mais aussi une dimension immatérielle, c'est-à-dire le prestige dans la société, la formation des professeurs, le déroulement de leur carrière, toute une série de sujets extrêmement importants. Tous ces sujets-là sont centraux, déterminent la qualité d'un système éducatif. Et ce que j'escompte, c'est que dans cette sortie de crise, il y a une sorte de consensus français autour de la valeur de l'école au cœur de la société. Et nous le disions avant la crise, hein, éducation et santé sont les deux piliers d'une société moderne du 21e siècle. Donc je n'ai aucun doute sur le cap en la matière. Après, sur les modalités, eh bien, il y aura évidemment de très grandes discussions qui continueront sur ces sujets. Mais l'objectif, il est très clair, c'est l'éducation comme élément clé de la société et qui suppose donc des professeurs bien recrutés, bien formés, bien payés.
Françoise Fressoz.
Vous avez évoqué le consensus français qu'en fait on recherche depuis le début du quinquennat parce qu'on voit une société extrêmement divisée. Est-ce que vous pensez que le monde politique, à la lumière de cette crise, est capable, après, pour cette sortie de crise, de faire un consensus, alors sous des formes diverses, hein, beaucoup parlent de sorte de Conseil national de la résistance ou de mettre en commun un certain nombre de choses. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus ou vous pensez qu'au fond tout va redevenir comme avant ?
Jean-Michel Blanquer.
Je suis plutôt optimiste, même je ne le suis pas totalement, mais je le suis parce que je vois quand même beaucoup de positionnements responsables à gauche et à droite et on doit saluer cela. Alors souvent ça fait moins de bruit que les positionnements moins responsables, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ont tout simplement pris la mesure de la gravité de la situation et qui ont joué le jeu de l'intérêt général de la France, tout simplement. Et donc, c'est d'abord cela qui doit être le levier de ce que l'on peut penser sur la suite. Ensuite, l'avenir politique sera différent du passé ? La réponse est forcément oui. Comment est-ce que ça va se structurer politiquement ? C'est très difficile à dire et ça dépend de chacun. Il faut voir en particulier comment la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement vont se positionner au cours des prochaines semaines et en sortie de crise. Mais je pense qu'il faut être très ouvert, notamment au Parlement, pour qu'il y ait des majorités d'idées sur des questions qui peuvent parfois être à géométrie variable, mais en tout cas des majorités d'idées sur des évolutions structurelles de notre société, et puis pour faire face aussi aux difficultés économiques très, très rudes que nous aurons en sortie de crise.
Quand vous avez vu Martin Hirsch, le patron de l'APHP, tenir sa réunion de crise hier et tweeter ensuite qu'il était inquiet, inquiétude partagée, je le cite, par tous ceux qui sont allés dans les hôpitaux parisiens, ils avaient croisé trop de monde dans les rues, trop de promeneurs, trop de flâneurs, pas de relâchement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Michel Blanquer ?
Ouais, je pense que Martin Hirsch a raison depuis sa position, qui est une position d'acteur et d'analyste très forte, d'alerter sur le fait qu'on ne doit pas se relâcher sur ce qui permet de lutter contre l'épidémie, et puis par ailleurs d'en appeler à une forme d'unité de tous autour de ces enjeux, que ce soit pour respecter le confinement ou pour être acteur de ce qu'il y a à faire en première ligne ou en deuxième ligne. Si vous prenez un sujet qu'on a en commun avec Martin Hirsch, c'est le fait que les médecins scolaires et les infirmiers scolaires, dès le début de la crise, ont affirmé leur volonté d'être aux côtés des soignants. Et en ce moment, on a les premiers volontaires issus de l'éducation nationale qui prêtent main forte. Donc cette solidarité et ce sens des responsabilités de chaque personne dans la société française, selon ses compétences et selon sa situation, est évidemment quelque chose qu'on ne peut que soutenir.
Avant de vous libérer, Jean-Michel Blanquer, un message pour les élèves qui stressent, qui sont inquiets. Que leur dites-vous aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas à attendre un déconfinement dans les jours qui viennent ? Ce ne sera pas pour demain matin, pour citer le Premier ministre.
Je leur dis, ne soyez pas stressés, ne soyez pas inquiets, puisque ce que nous avons établi est justement fait pour faire tomber l'inquiétude et aussi l'incertitude. Par contre, soyez de façon équilibrée au travail. Je pense que dans une période comme celle-ci, c'est certainement pas le stress que l'on doit cultiver. En revanche, c'est une attitude, je dirais, d'apprentissage serein. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle l'opération Nation Apprenante, à laquelle le service public audiovisuel participe de manière très engagée, je le salue. Par exemple, vous avez à partir de demain sur France Culture à midi tous les jours la lecture par un comédien d'une œuvre qui a un rapport avec les programmes de français de première. C'est ce genre de choses qui se développent et qui fait qu'on peut passer le confinement à s'instruire, à lire des livres et à faire des choses qui en réalité vont préparer les réussites futures. Et un élève qui entend ce message est un élève qui se met en situation de grande maturité, en fait, puisqu'il peut à la fois apprendre et puis aussi comprendre que bien les situations exceptionnelles obligent chacun à se dépasser, à préparer l'avenir, à voir parfois le monde avec un œil différent. Et tous ces enseignements-là ne sont pas des enseignements vains. Donc on ne doit pas vivre cela comme une parenthèse perdue, mais au contraire comme un levier pour mûrir individuellement et collectivement. Donc c'est vrai pour nos élèves et on va tout faire pour qu'ils réussissent. Et je suis sûr que c'est le cas. Il faut que chacun s'en donne les moyens et on réussit en travaillant, évidemment.
Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche, 12h34 sur France Inter. Questions politiques continuent avec Françoise Fressoz du Monde et Karine Bécard de France Inter, invitée de la deuxième partie de l'émission, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot.
France Inter, Ali Badou, questions politiques.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Beaucoup de questions à vous poser, mais notamment celles qui concernent l'après. Est-ce que vous êtes déjà en train de penser au monde d'après la crise, au monde d'après le Covid-19? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir organiser un Grenelle du monde d'après une fois qu'on aura levé le confinement?
Parce que le monde d'avant, cette épidémie absolument dramatique, et l'urgence aujourd'hui, c'est évidemment de soigner, d'éviter la propagation, de rester confiné, de se protéger, c'est évidemment de parvenir au monde d'avant, parce que s'il y a une leçon à tirer de cette crise, et il y en a beaucoup même, c'est que le monde ne nous a pas préparés à une telle catastrophe, à avoir la moitié de l'humanité confinée, à devoir au fond voler les cargaisons les uns des autres sur les tarmacs chinois pour essayer d'obtenir des masques, à dépendre de la Chine pour nos médicaments, à avoir beaucoup de certitudes qu'on pouvait avoir remises en question. Donc notre responsabilité, moi comme eurodéputé avec mes collègues, c'est évidemment aujourd'hui de penser l'intervention européenne en matière sanitaire, de penser la solidarité sociale, de penser la solidarité économique, mais surtout, on le voit, d'essayer de dessiner ce que devrait être un projet de civilisation qui nous évite d'être aussi vulnérables, qui remette l'essentiel au cœur de la politique et de la société.
Question de Françoise Fressoz.
Vous évoquez un projet d'une autre société qui sera peut-être moins consommatrice, moins mondialisée, mais l'urgence dans la sortie de crise, ça va essayer de rétablir l'emploi pour qu'il n'y ait pas du chômage de masse. Comment faire en sorte de concilier le court terme, c'est-à-dire essayer d'éviter une nouvelle crise sociale et tout en pensant la société, quels sont les outils et quels sont les moyens politiques pour le faire ?
Yannick Jadot.
Vous avez raison. Il va falloir articuler à la fois une crise sociale qui va être profonde. On ne sait pas comment on va sortir économiquement de cette crise, mais il est évident que partout le chômage va augmenter. On voit les métiers les plus précaires en grande difficulté, d'ailleurs mal protégés par les dispositifs existants. Il va falloir sauver les entreprises et en même temps, comme on dit, on ne peut pas sauver l'économie et ne pas organiser la survie sanitaire, écologique, sociale de l'humanité. Pourquoi les écologistes proposent un Grenelle du monde d'après? C'est que dans les semaines qui viennent, il y a des torrents d'argent public français, européen, qui vont se déverser sur l'économie. On va avoir des déficits et c'est normal. Mais il est évident que ce torrent d'argent public ne reviendra pas tous les ans et qu'il serait totalement irresponsable à la fois de déconnecter le sauvetage de l'économie, de la survie de l'humanité, et il serait totalement irresponsable, voire ce serait une faute politique majeure, que ce nouveau projet ne fasse pas l'objet d'un débat, d'une négociation avec toutes les forces vives du pays.
Mais vous n'avez pas complètement répondu à Françoise lorsqu'elle pointait du doigt cette contradiction. Vous avez essayé de lui répondre avec cet argument du « en même temps ». Malgré tout, est-ce que ce ne sont pas des impératifs ou des objectifs vraiment contradictoires, Yannick Jadot ?
Absolument pas. Prenons la question de l'agriculture, par exemple. En ce moment, au niveau européen, la Commission veut continuer à négocier la réforme de la politique agricole commune comme s'il ne s'était rien passé. Continuer à faire des accords de libre-échange comme s'il ne s'était rien passé. Vous vous rendez compte que, avant la crise pandémique, on profitait de la peste porcine en Chine pour développer de manière concentrationnaire l'élevage en Bretagne, nourri par du soja qui participe de la déforestation au Brésil. Et on sait à quel point la déforestation, c'est un drame pour le climat, c'est un drame et ça accélère la propagation des virus. Nous savons aujourd'hui que la politique agricole commune, comme notre agriculture, doit être relocalisée. Ça créera plus d'emplois pour les paysans, ça créera évidemment une meilleure résilience sur les virus, sur le climat, comme sur notre alimentation. De la même façon, nous allons devoir repenser tout ce qui relève de notre dépendance à la Chine ou à d'autres pays. Le Japon vient de lancer un budget pour aider les entreprises à relocaliser, notamment de Chine. Eh ben, nous proposons qu'à l'échelle de l'Europe, on relocalise ce qui relève de notre résilience et de notre souveraineté. Évidemment, les médicaments et les matériels en matière de santé, mais on voit que la question se pose sur le numérique, sur l'énergie au combien, sur un certain nombre d'industries vitales. Donc on doit, et c'est pour ça qu'il va falloir que les entreprises, les syndicats, les collectivités, les associations et l'État, évidemment, se mettent autour de la table pour dire ces centaines de milliards d'euros, comment on va les investir pour qu'à la fois on sauve les entreprises, vous l'avez dit, on sauve l'emploi, mais qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs qui nous ont quand même conduit, avant le Covid, à une société en burn-out sanitaire, écologique, sociale. Et il va falloir bien réfléchir différemment, travailler différemment.
Karine Bécard.
On entend bien ce que vous dites, Yannick Jadot, mais on se pose malgré tout la question, là en ce moment, elle en est où l'écologie ? On a l'impression que c'est la grande oubliée. Je prends un exemple. La Convention citoyenne, la Convention des 150 qui avait été mise en place pour le climat, mise en place par Emmanuel Macron juste après la crise des Gilets jaunes, elle devait rendre normalement ses travaux ce week-end, ça tombe bien, aujourd'hui même. Tout ça a été repoussé, on a l'impression que tout ça n'est plus exactement la priorité. Il est même possible que les préconisations de cette convention apparaissent assez décalées finalement au moment où on va commencer à l'écouter. Donc, est-ce que l'écologie n'est pas quand même en train de devenir la grande victime, la grande oubliée du coronavirus ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire, je pense que l'écologie est une partie de la solution. On a eu souvent raison de dénoncer un modèle néolibéral où au nom du pseudo-efficacité économique, il fallait dépendre de la Chine, je l'ai dit, pour les médicaments, du Brésil pour le soja et pour notre élevage. Au nom d'une pseudo-efficacité économique, il fallait sauver les banques après la crise financière, mais en désossant l'hôpital public, l'école, on voit bien qu'il y a une nouvelle hiérarchie des priorités. D'ailleurs, il y avait un sondage via Voice cette semaine qui montrait à quel point les Français sont prêts et demandent un changement de modèle. Je l'ai dit, quand on propose de relocaliser, de moins dépendre de la Russie pour le gaz et plus mieux isoler nos logements, y compris pour faire face aux canicules. Et puis les Français voient très bien que cette crise sanitaire est d'une violence, d'une brutalité absolue.
Yannick Jadot. La connexion est perdue avec Yannick Jadot. On va le retrouver dans un instant, évidemment. Françoise Fressoz, la question qui se pose de l'écologie. L'écologie qui était au cœur des débats juste avant la crise du Covid-19, elle est complètement laissée de côté depuis le début de la crise et la pandémie que nous traversons. C'est compréhensible ?
Moi, je ne pense pas qu'elle soit de mise de côté, parce que je pense que la crise sanitaire, au fond, tombe à un moment où il y avait une série de remises en question. On l'a vu effectivement sur l'écologie, sur le degré de dépendance à l'étranger. Donc, je pense que toutes ces questions-là vont être débattues dans la période de l'après-crise. La difficulté, ça va être de concilier effectivement éviter une catastrophe économique. Regardez par exemple l'automobile. Des groupes comme Renault sont complètement arrêtés. Il n'y a plus de production. Donc, est-ce qu'il faut absolument remettre très vite les chaînes de production pour sauver l'entreprise, ou est-ce qu'il faut penser à la voiture propre, à un développement de la voiture propre ? Ça va être ça la question. Et il me semble que les sujets sont tellement énormes que ça va obliger une restructuration politique. C'est-à-dire, et ce qui me frappe dans ce que dit Yannick Jadot, c'est qu'il est aussi beaucoup, comme Emmanuel Macron, sur la dimension européenne. La souveraineté, elle doit bien sûr être pensée au niveau français, mais le levier d'action, si on veut vraiment enlever notre dépendance par rapport à la Chine, c'est l'Europe. Et ce qui est intéressant à observer dans les semaines et les mois qui viennent, c'est est-ce qu'il va y avoir une recomposition politique autour de cette sortie de crise qui pose un certain nombre de problèmes. Et je pense que l'écologie va rester une question centrale, mais il faut arriver à l'intégrer sur le long terme et dans une reconstruction politique qui n'est pas du tout pour le moment en œuvre, mais qui va peut-être apparaître.
Vous partagez l'analyse de Françoise Fressoz, Yannick Jadot ?
Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, en 2008, souvenez-vous, après la crise, l'automobile est en grande difficulté en Europe. Il faut se souvenir que c'est 13 millions de salariés. Et le gouvernement et Nicolas Sarkozy vont mettre 5 milliards dans l'industrie automobile pour l'aider à sortir de cette crise. Malheureusement, sans aucune conditionnalité, ni sociale, ce qui, on verra, le processus de délocalisation se poursuivra, ni écologique. Et sur ces 10 dernières années, on a eu quoi ? Le Dieselgate, et on a eu le développement des SUV dont on sait l'impact sur notre santé et le climat. Donc, l'enjeu n'est pas de laisser tomber des secteurs économiques, au contraire, mais c'est de mettre les acteurs autour de la table pour dire, si on met autant de milliards d'argent public, qu'est-ce qu'on veut pour la société.
Et alors, c'est expliquez-nous justement très concrètement, Yannick Jadot, oui. Si l'État doit venir à l'aide de Renault, par exemple, il faudra que cette aide soit sous condition.
Mais déjà,
on
de
aide
respecter
Renault,
les normes.
Éventuellement, on nationalise Renault, mais uniquement si Renault s'engage à produire vert, à produire des véhicules qui sont autres que ceux qui fonctionnent avec des moteurs thermiques.
Un, on voit que on a trop délocalisé et beaucoup d'entreprises sont trop dépendantes de ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Donc, il va falloir potentiellement relocaliser une partie des productions, mais effectivement accélérer la transition écologique. Malheureusement, vous voyez aux États-Unis, la tendance est très forte. Aux États-Unis, Trump suspend toutes les normes de lutte contre la pollution. Les lobbies automobiles européens demandent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si cette crise conduit à amplifier les dérives et les dégâts du modèle précédent, la crise du coronavirus, malgré sa violence, malgré les dizaines, les centaines de milliers de morts qu'il y aura au niveau mondial, n'aura pas servi de leçon. Nous devons, et c'est aussi une façon aussi de rendre plus résiliente la démocratie. Vous voyez bien que depuis des mois et des mois, l'hôpital public se mobilise. Ils ont obtenu, ces soignants, essentiellement des réponses technocratiques. On ne peut pas imaginer sauver l'hôpital public sans mettre les soignants et les patients autour de la table. On ne peut pas imaginer aujourd'hui repenser l'école qui a tellement besoin d'être soutenu, sans les enseignants et sans les parents, et ben de la même
Mais
façon.
Mais restons sur les questions écologiques, Yannick oui. Jadot. Les compagnies aériennes, par exemple, est-ce qu'il faut les sauver? Est-ce qu'il faut, par exemple, nationaliser Air France, ou est-ce que le fait que les avions soient cloués au sol depuis plusieurs semaines maintenant, vous voyez ça comme une bonne nouvelle?
Non, je ferai jamais partie de ceux qui pensent que une crise d'une telle violence, c'est une bonne nouvelle. Ce que nous vivons aujourd'hui, évidemment aujourd'hui confinés, nous polluons moins, mais ce que nous vivons aujourd'hui n'est certainement pas un modèle de société écolo. Sur la question de l'aéronautique, il va falloir sauver nos compagnies, mais est-ce qu'on va laisser en place des vols Paris-Strasbourg alors qu'il y a le TGV qui fait le trajet en moins de 2 heures. Donc il va falloir qu'une partie du trafic aérien se reporte sur le train quand c'est plus efficace, comme il va falloir qu'une partie de la route se reporte sur le train quand il s'agit notamment des marchandises. On sait qu'il va y avoir une baisse du transport aérien international pour quelques années. On sait que certaines plateformes aéroportuaires régionales ne fonctionnent que grâce à la subvention publique. Et ben justement, discutons-en avec les compagnies aériennes pour que ce modèle très prédateur, à la fois du point de vue social comme du point de vue environnemental, ne soit pas reconduit à l'identique. On a une opportunité d'avoir un modèle de société où il y a moins de compétition, plus de bienveillance et de coopération. Eh bien, il va falloir se retrousser les manches. Je l'ai dit aussi, le modèle du Conseil national de la résistance est un bon exemple où les forces sociales, les forces politiques se mobilisent quand elles tombent d'accord, sans que ce soit un consensus, quand elles tombent d'accord sur les grandes réformes à engager.
Karine Bécard.
Finalement, ce que vous dites, Yannick Jadot, c'est prenons le temps de reconstruire et de bien reconstruire la France, le monde, enfin le modèle dans lequel nous sommes. La question qui se pose malgré tout, c'est est-ce qu'on a ce temps-là ? C'est-à-dire que vous voulez prendre le temps de mettre les bonnes questions, les bonnes conditions écologiques pour cette reconstruction. Le problème, c'est qu'en face, on a des salariés qui vont vouloir, et des entreprises qui vont vouloir reprendre très vite ce travail. Donc, de combien de temps vous avez besoin pour rebâtir ce monde de l'après que vous nous proposez ce matin ?
Mais en quelques semaines, il y a beaucoup de choses dans la société qui nous donnent un chemin. Pourquoi on voit bien que l'État est en train de retrouver une place essentielle, et c'est important, sur les services publics, sur les biens communs, potentiellement en se substituant au marché. Mais sur tous nos territoires, quand on parle de l'agriculture, les circuits courts, l'agriculture biologique, quand on parle des énergies renouvelables, quand on parle des modes de transport plus doux, moins polluants, tout ça existe déjà. Donc la question, c'est, jusque-là, c'était en marge des politiques publiques. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit au cœur des politiques publiques. En quelques semaines, quand on fait référence au Grenelle, ça n'a pas pris des années pour avoir un saut qualitatif en matière sociale. Quand on pense au Conseil national de la résistance, il n'aura pas fallu des années pour penser la sécurité sociale. Donc on a un impératif d'urgence, mais cet impératif d'urgence, il ne doit pas laisser à Bercy, sous une forme technocratique, sous l'influence des lobbies, la seule décision sur la dépense de centaines de milliards d'euros d'argent public.
Sur la culture,
sur les services publics, sur l'industrie automobile, sur les services et toutes celles et tous ceux qui nous permettent de vivre aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas avoir une négociation sur les salaires, sur des chemins d'investissement qui respectent le climat et la biodiversité.
Françoise.
Une question un peu directe, j'aimerais bien que vous n'ayez pas la langue de bois pour me répondre. Au fond, toute cette crise qui va être très profonde, qui va durer, elle va à un moment percuter l'élection présidentielle de 2022. On sentait que vous vous prépariez comme une alternative à Emmanuel Macron. Mais tout le discours que vous développez aujourd'hui, c'est qu'au fond, il faut que la nation se rassemble autour de quelques priorités. Comment, dans votre agenda personnel, vous conciliez ces deux impératifs ?
Yannick Jadot.
Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment pas 2022. Le sujet, c'est quelle sera la France et l'Europe dans quelques semaines. Est-ce que ce sera une France plus solidaire? Est-ce que ce sera une Europe plus solidaire? Vous savez à quel point le débat européen est essentiel dans les jours qui viennent. C'est au fond la France des 10 ou 20 ans qui viennent, l'Europe des 10 ou des 20 ans qui viennent. Elles vont se décider dans les quelques semaines, dans les quelques mois qui viennent. Et franchement, l'échéance 2022, c'est une échéance importante, mais pour moi, c'est pas l'échéance démocratique. Si je me bats autant pour qu'on sorte de la verticalité du pouvoir, qu'on sorte de la technocratie, qu'on mette les collectivités locales au cœur du programme de transition qui va s'engager dans les semaines qui viennent, c'est parce que beaucoup de choses vont se décider dans les semaines et dans les mois qui viennent, et qu'on peut pas décevoir les Français. Ils savent aujourd'hui, ils sont, moi je discute par internet, je le vois sur les réseaux, tout le monde s'interroge de mais comment on pouvait être aussi vulnérable? Comment il est possible que on soit aussi dépendant d'autres? Comment aujourd'hui il y ait ce spectacle dramatique de la Chine qui nous a menti sur cette maladie, de la Chine qui nous met en concurrence pour aller implorer des masques, de Trump qui a menti sur cette crise et qui aujourd'hui essaye de refaire du nationalisme. Moi, je veux pas qu'à la fin de cette crise, ce soit Trump, Xi Jinping, Poutine, Le Pen, Salvini qui gagnent. Je veux que ce soit la coopération, je veux que ce soit la solidarité et l'emploi et l'innovation industrielle et l'innovation économique. On a tout. Les solutions existent. La société qui va bien, elle existe. Mais il faut la sortir des marges pour la mettre au cœur des politiques publiques. On a des moyens, enfin. Tout le monde redécouvre l'État-providence, tant mieux. Mais laissons les forces sociales, accompagnons ces forces sociales, ces forces vives qui ont tellement d'envie, d'enthousiasme, d'innovation en eux et collectivement pour emmener dans une société qui soit, et un projet de société qui soit beaucoup plus enthousiasmant.
Question de Karine Becker.
Vous parlez d'un projet de société plus enthousiasmant, vous parlez d'une France plus solidaire. Malgré tout, ce qu'on observe, c'est de plus en plus deux France pendant cette crise sanitaire. C'est cette France à la fois d'un côté aisée, protégée en télétravail, et puis en face, on a cette France des usines, des emplois peu qualifiés, de tous ces gens qui font tourner l'économie en ce moment et qui prennent des risques d'ailleurs en plus pour nous tous. Comment, juste après la crise, comment est-ce qu'on réussit à la faire avancer ensemble à nouveau ces deux France? Comment est-ce qu'on réussit à réconcilier tous ces gens?
Yannick Jadot.
Mais vous avez raison, il y a une nouvelle hiérarchie au fond de l'utilité sociale des métiers qui est apparue dans cette crise. On a moins besoin d'un boursicoteur, d'un trader de marché financier que d'une infirmière ou d'une caissière ou d'un éboueur. Donc il va falloir que ces métiers qui ont été souvent précarisés, maltraités, fassent l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux pour qu'il y ait des hausses de salaire très significatives et puis qu'il y ait des droits beaucoup plus protecteurs. On a toute une partie de la société qui s'est ubérisée et qu'on voit aujourd'hui, et quand je vais quelquefois à ma supérette pour m'approvisionner, je vois que la patronne de la supérette, eh ben, elle est malade. Je vois que les salariés ne se sont pas vus encore promettre de primes pour les risques qu'ils prennent. Ils ont des masques qu'ils n'arrivent même pas à changer tous les jours. Et donc, il va falloir qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on réconcilie la France, mais c'est autour de droits sociaux protecteurs, autour d'une juste rémunération, et puis le fait que effectivement on arrête de mettre en place des mesures, que ce soit la réforme de l'assurance chômage ou la réforme des retraites, qui vont nous diviser, précariser une partie de la société, tout ça, il va falloir mettre ça au congélateur.
Question politique, Yannick Jadot. Est-ce que vous avez confiance, est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour gérer la crise que nous traversons?
On a un devoir d'unité. On a un devoir d'unité parce que le premier enjeu, c'est la mobilisation. La mobilisation de ceux qui doivent rester chez eux. C'est une drôle de mobilisation, mais elle est essentielle. Et la mobilisation derrière nos soignants et tous ces métiers que vous évoquiez. On aura à tirer toutes les leçons de cette crise, et il y en a beaucoup. Comment on est arrivé à désarmer autant notre capacité de répondre à des pandémies alors que on avait des masques et puis ils ont disparu, les stocks ont disparu. Comment on est arrivé à ce que on le voit dans la presse, les enquêtes que la presse continue de mener, on ne répond pas à 75 laboratoires publics qui sont prêts à nous donner 150 000 à 300 000 tests semaine quand on en a tellement besoin. On aura besoin de comprendre ces processus de décision qui sont pas forcément de l'incompétence ou de la malveillance, évidemment, mais des processus de décision au sein de l'État qui nous mettent tellement en retard sur nos appels d'offres sur les masques, tellement en retard sur la mise en place de tests. Et puis il faudra analyser politiquement quelles ont été les stratégies de communication. Vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission où on nous a dit pendant longtemps que les masques, ça servait à rien. Et on voit qu'évidemment, c'est utile, mais surtout parce qu'on n'en avait pas. Mais
c'est de la maladresse,
bilan-là, il faudra le tirer après. Aujourd'hui, mobilisons, protégeons nos proches. C'est l'urgence absolue.
Merci Yannick Jadot d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche. Merci. Et bonne vie confinée. Merci à Alexandre Gilardi, merci à Françoise et Karine, ainsi qu'aux équipes techniques de Radio France et de France Inter qui nous permettent d'être au rendez-vous avec vous chaque dimanche à suivre sur Inter, le journal.